à tout le monde. Alors, ça, c'est dur parce que vous êtes en combien, 180 degrés plus, hein, ça fait pas 360, mais pas loin. Alors, c'est vraiment difficile. On va essayer de faire comme ça. Mais bon, il faut s'adapter. Alors, j'essaie de regarder tout le monde quand même, mais bon, vous êtes un peu toute seule là-bas. Là. Bon. Oui, d'accord. Je crois que vraiment ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose. Je ne sais pas si vous sentez dans l'esprit que c'est différent. Vous sentez un petit peu qu'il y a des choses différentes. Bon, la salle, bien sûr, est différente, ça c'est normal, mais au physique, il correspond au spirituel. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Dans l'esprit, on le sent. Dans la louange, dans l'adoration, il y a quelque chose de nouveau. On entre dans une autre phase, une autre dimension. Et ce matin, à travers sa parole, le Seigneur, il veut faire quelque chose. Ce n'est pas juste une parole qu'on va recevoir comme ça dans la tête, un message de plus, quoi. Je sais qu'à travers ça, ce n'est pas tout le temps que je le sens comme ça, vous voyez, mais ce matin, c'est vraiment le Seigneur, il veut faire en nous une œuvre pour nous préparer, une étape de plus dans la préparation, et même, je dirais, une accélération dans la préparation. Le week-end prochain, on commence à recevoir de l'extérieur, et peut-être que c'est que le début, ça va peut-être s'accélérer après. Il y a une accélération qui vient, il y a un sentiment d'urgence. Et à travers sa parole, à travers les passages que je vais lire, je crois vraiment que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Alors je vais lui demander, si vous pouvez bien vous unir dans la prière, on va lui demander. Hein. Saint-Esprit, ce matin, on te donne toute la place. Viens planer au milieu de nous, viens planer au-dedans de nous, viens faire ton œuvre. Tu as une œuvre spéciale ce matin à faire en nous, parce que tu veux nous préparer, parce que tu vois les foules qui sont dehors et qui attendent qu'on soit prêt, parce que tu vas nous les envoyer et tu veux nous préparer. Alors Saint-Esprit, à toi toute la place, tout l'honneur, toute la liberté, et que nos cœurs soient vraiment ouverts, ouverts à ton action. Que nos cœurs soient disponibles, que nos cœurs soient réceptifs, que nos cœurs soient désireux de plus de toi. Seigneur, fais vraiment ton œuvre. Prends toute la place. Et que l'être humain s'efface, et que toi, Seigneur, qui prennes vraiment toute la place, parce que les temps sont urgents. Il y a une urgence de ton esprit. Amen. Je crois que Dieu va nous rendre de plus en plus passionnés de le connaître. Mais alors, vraiment passionnés. Et. Attendez, je commence par là. On chante beaucoup, puis après, il y a la poussière et tout ça. Alors. Et connaître Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être vous avez des idées un petit peu religieuses sur Dieu. Alors, si je vous dis que un jour, on a rencontré quelqu'un qui nous a dépanné. Je le dirai avec des mots de tous les jours. Hein. Quelqu'un qui nous a dépanné, drôlement dépanné. Ils ont même sorti du trou. Alors, on est drôlement reconnaissant à ce quelqu'un qui nous a dépanné. Et puis, après, on commence à le fréquenter, cette personne-là. Et puis, on se rend compte que c'est quelqu'un de drôlement intéressant, qu'il a une personnalité très, très riche. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un d'accueillant, c'est quelqu'un de très chaleureux, c'est quelqu'un de lumineux, de joyeux, d'enthousiaste, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui vous ouvre plein d'horizons nouveaux, c'est quelqu'un qui vous fait aller au-delà de ce qu'on croit être nos limites, c'est quelqu'un qui voit toujours le meilleur en nous, et puis en plus, il nous amène vers qui on est de toute éternité. Parce que quelqu'un, vous savez, vous voyez, c'est Dieu. Hein. C'est ça, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Bien sûr, c'est le Dieu saint, c'est le Dieu de majesté, c'est le Dieu grand, c'est le Dieu noble. C'est énorme, quoi. Et quand on a commencé à connaître cette personne, alors bien sûr, on le connaît parce qu'on est bien content de l'avoir trouvé, parce qu'il nous règle nos problèmes, c'est sûr. Mais après, il y a en nous une passion qui grandit parce qu'il est passionnant à connaître, parce qu'il est fascinant. Et alors en nous, il y a une soif qui vient, un désir de lui, une passion de lui, et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et puis on veut passer de plus en plus de temps parce qu'on veut le connaître plus. Il y a une soif que de lui, et je crois que dans cette église, Dieu a mis déjà une passion de connaître Dieu, juste pour lui, pour qui il est. Juste pour qui il est, pas seulement par intérêt. C'est sûr, ça commence souvent par l'intérêt. Mais après, il y a un désir de lui, une passion de lui, et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. On est de plus en plus passionnés. Et je crois que cette passion, elle est propre à cette église, mais elle va grandir encore. Une passion de le connaître. Et puis il y a ce verset de Philippiens, version Semeur, hein, Philippiens 3, 8, 10. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Mon but est de connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection, et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans la mort, afin de parvenir, quel qu'en soit le chemin, quel qu'en soit le prix, à la résurrection d'entre les morts. Car Jésus-Christ est saisi de moi. Bon, il y a une version que je ne crois pas juste qui dit, si possible, parvenir à la résurrection d'entre les morts. Non, ce n'est pas si possible, c'est quel qu'en soit le chemin, quel que soit le prix, on parvient à la résurrection d'entre les morts. Mais il y a aussi ce verset, enfin cette partie du verset, mon but est de connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection, ça on est tous d'accord, on veut la résurrection, avoir part à ses souffrances. Ah, c'est quoi ça? Et alors, on va passer à... Dans la Bible, il y a une description de Jésus. Il y en a même plusieurs. Vous pouvez me dire où ça se trouve, les descriptions de Jésus dans la Bible? Une description détaillée, hein, pas seulement des traits de caractère comme ça, une description tout à fait détaillée. Vous les avez où? Il y en a deux endroits. Comment? Alors, il y a l'Apocalypse, oui. Bon, Daniel, je vois pas trop. Voilà, la Cantique des Cantiques. Hein. Et je vais prendre une moitié de verset de Cantique des Cantiques. Vous voyez, c'est tellement riche la description de Cantique des Cantiques, c'est dans Cantique 5, hein, description de Jésus. C'est que des métaphores, bien sûr. C'est pas à prendre au sens littéral, mais c'est métaphorique, mais c'est d'une profondeur et d'une richesse incroyable. Hein. Et alors, je vais prendre un demi-verset, c'est dans Cantique 5, 14b. Cantique 5, 14b, ça décrit Jésus, mais tous les autres versets sont fascinants, mais il y a celui-là. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, ça vous intrigue quand même. Ça veut dire quoi ça? De l'ivoire poli couvert de saphir. Alors vous savez que la Bible, elle s'explique par la Bible. Les versets de la Bible, c'est des correspondances à l'infini. C'est une richesse incroyable, la Bible. Parce que tout verset s'explique par un autre verset qui rappelle un autre verset, et encore un autre, et encore un autre. Et puis, il y a plein de correspondances comme ça. Et on s'est mis en relief de différentes manières, et c'est fabuleux, quoi. Alors, d'abord, son corps, ce n'est pas une bonne traduction. Ce n'est pas son corps, c'est ses entrailles. Ses entrailles sont de l'ivoire poli couvert de saphir, ou de lapis-lazuli, hein, il y a des pierres précieuses. Alors, qu'est-ce que ça... Les entrailles, c'est quoi, les entrailles? Ça parle de quoi? C'est le siège de quoi, les entrailles? Alors, il y a un autre verset qui explique ça. Et si vous voulez le prendre, hein, c'est vraiment un verset très fort qu'on lit un petit peu rapidement dans les temps de Noël, comme ça, mais on passe dessus trop vite. C'est Luc 1, verset 78. Alors on va le prendre. Luc 1, verset 78. Donc c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui dit « Toi, petit enfant, verset 76, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant les seigneurs pour préparer ses voies. » Pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. Et alors, l'ardente miséricorde de notre Dieu, la Thomson me dit, en petite note, littéralement, c'est à cause des entrailles de miséricorde de notre Dieu. C'est par elle, par ces entrailles de miséricorde, que le soleil levant nous visite d'en haut, nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Ce qui a motivé la venue de Jésus, c'est les entrailles de miséricorde de Dieu. Les entrailles, ça parle de la miséricorde, ça parle de la compassion, ça parle de la grâce. C'est ça les entrailles, ça nous parle de ça. Et dans la Bible, c'est le siège des émotions, des sentiments, de l'affection, de l'amour, c'est le siège de tout ça. Ça, c'est les entrailles au niveau biblique. Et il y a des religions qui tuent tout ce qui est émotion et sentiment. Mais la Bible, c'est pas ce qu'il fait, au contraire. C'est un Dieu qui vibre, qui a des entrailles, ça vibre. Sa vie, et elles sont débordantes, elles sont puissantes de vie. Donc, je relis, hein. À cause des entrailles de miséricorde de notre Dieu, c'est par elles que le soleil levant nous a visités afin d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Alors, pourquoi on parle d'entrailles qui sont comme du l'ivoire? On aurait pu dire, je ne sais pas, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Pourquoi de l'ivoire? Et ça, c'est vraiment intéressant. L'ivoire, il faut de la mort pour avoir de l'ivoire. Il faut une mort d'animal. Hein. Et en plus, c'est de l'ivoire poli. C'est de l'ivoire qui a été travaillé pour arriver à ce polissage. L'ivoire est acquis au prix de la souffrance. Pas comme les pierres précieuses. Hein. Les pierres précieuses, ça se trouve dans les entrailles de la terre aussi, mais ce n'est pas pareil. L'ivoire est acquis auprès de la souffrance. Et compassion, vous savez, étymologiquement, en français, compassion, ça veut dire, passion, c'est souffrir, hein, souffrir comme avec. Compassion, c'est souffrir avec. Donc l'ivoire, ça nous parle de souffrance. On parlait de Philippiens 3, la communion à ses souffrances, c'est ça, c'est souffrir avec, c'est la compassion. Et les soupirs, les larmes de Jésus révèlent qu'il est vraiment homme, et en même temps, ses compassions, elles sont célestes, et ça, c'est les saphirs. Le saphir, c'est le bleu, c'est couleur bleue, et ça parle du céleste, c'est la couleur du ciel. Donc il y a l'ivoire qui parle de souffrance, mais l'ivoire est couvert de saphir et ça parle du céleste, du divin. Et en même temps, le saphir, ça nous parle du trône. Et on retrouve cette notion à la fois d'ivoire et de trône dans un autre passage. Donc c'est 1 roi 10, c'est le verset 18 à 20. C'est la description d'un trône, qui est une image du trône céleste. C'est le trône de 1 roi 18, ça parle d'un trône d'un roi, et c'est lequel ? Salomon. Un trône du roi. Salomon fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or fin. Après, on parle des marches, on parle des lions sur les marches. Et tout ça, ça a une signification forte. Hein. Or, l'or, bien sûr, c'est la gloire. Hein. Les marches, ça parle de l'élévation du trône. Les lions, c'est la force majestueuse du roi. Et le trône d'ivoire, le trône de celui en qui les compassions ont été exprimées dans l'humiliation et la souffrance. C'est ça, l'ivoire. Et avec notre accord, le Saint-Esprit va faire en nous ce travail de polissage de l'ivoire. Parce que ce que le Saint-Esprit veut, c'est qu'on exprime la profondeur de la miséricorde et de la compassion qui sont en Jésus. Donc il va, bien sûr, avec notre accord, hein, on peut résister, on peut dire non. Mais si on est d'accord, il va polir, il va faire en nous cet ivoire. Et cet ivoire, on en parle aussi dans Psaume 45. Si on est d'accord pour ce travail de l'ivoire dans nos vies, il y aura des palais d'ivoire dont les instruments à cordes réjouiront le roi. Il y aura une adoration, une louange très particulière qui monteront dans les palais d'ivoire. Vous voyez ? Il y a une adoration qui a une teinte spéciale à cause le travail de l'ivoire dans nos vies. Et le trône de Dieu, c'est vraiment, vraiment un trône de grâce, du coup de la miséricorde. C'est Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec confiance, avec assurance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde, ou afin d'obtenir compassion et avoir du secours au moment opportun. Ça nous parle de la grâce. C'est un trône de grâce et de miséricorde. Et le saphir, donc c'est étonnant parce que le saphir est relié avec le trône, il est relié avec le ciel, il est relié avec l'ivoire, il est relié avec les entrailles, vous voyez. Et après, vous connaissez tous Ésaïe 54, malheureuse battue par les flots, je crois que personne ne te console, je te donnerai des fondements de saphir. À travers les épreuves, et peut-être parmi vous beaucoup parlent des épreuves dures, il y a des fondements de saphir qui sont établis. Et ça parle de la miséricorde. Il y a des entrailles de miséricorde à travers tous les secousses, les ébranlements, les douleurs de parents, les douleurs de toutes sortes de choses. Dieu sait ce qu'il fait et il bâtit des fondements de saphir dans notre vie. Donc je dirais merci Seigneur pour toutes les épreuves dures qu'on vit. Il y a des choses très 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 précieuses qui sont bâties. Il y a des entrailles de miséricorde qui sont bâties. Il y a de l'ivoire qui est poli si on accepte la main de Dieu dans notre vie, bien sûr. Hein. Il y a un lien très fort entre la gloire et la compassion. Souvent, on imagine dans notre tête la gloire, c'est une adoration fabuleuse, des vagues, des océans d'adoration, et c'est la gloire, on est porté dans la gloire. Bon, c'est ça la gloire, mais ce n'est pas que ça. Hein. Et peut-être, il y a un autre passage très important, c'est Exode 33, un passage qui est connu aussi, mais Exode 33, versets 18 à 20. Vous savez, c'est Moïse qui dit, Seigneur, il a cette soif de Dieu, cette passion de Dieu, Moïse, et il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et vous savez ce que répond Dieu. Hein. Il lui dit, je ferai passer devant toi, verset 19, toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. J'ai compassion de qui j'ai compassion. Moïse parle gloire et Dieu répond, bonté, compassion, miséricorde. Ça, c'est le fondement même de la gloire de Dieu, c'est ça. Et quand on connaît ce Dieu de miséricorde et de compassion, ça nous donne beaucoup, beaucoup de hardiesse pour demander. Il y a une puissance de Dieu qui est libérée. Et je voudrais qu'on vienne à l'Évangile. C'est un passage que je crois qu'on a déjà reçu dans les semaines à venir. Ça parle de la multiplication des pains. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important que Dieu veut nous redire. C'est bien de dire les choses. Matthieu 15. Donc c'est une multiplication des pains. Alors vous savez que donc Jésus avait une très profonde connaissance du Père, il connaissait le cœur de Père, et donc forcément il avait foi en Dieu. Il savait que quoi qu'il demande à Dieu, Dieu lui donnait, le Père lui donnait. Donc qu'est-ce qui a commencé d'abord Jésus, c'est Matthieu 15, 32. Ça commence par quoi? Qu'est-ce qui fait bouger Jésus? C'est la compassion. J'ai compassion de cette foule. Verset 32. Voilà 3 jours qui restent avec moi, ils n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Donc ce qui fait bouger en premier Jésus, ce qui meut Jésus, c'est qu'il fait mettre en mouvement, c'est la compassion. Et je crois qu'il veut ça pour nous. Dieu, il voit Guebwiller, il voit le Florival, il voit les gens, et il a un cœur ému de compassion. Son problème, c'est les disciples. C'est nous, le problème, c'est nous. On n'a pas de pain, nous, hein, on n'a pas de poisson, on n'a vraiment rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les problèmes, les enfants en souffrance, les ados en souffrance, tout ce qu'on a entendu ces dernières semaines. Et puis, défaitine, quoi, on baisse les bras. Mais, vous voyez, Jésus, il a cette communion avec le Père, il sait qui est le Père, et il sait que le Père peut libérer cette puissance de multiplication. Et la compassion de Jésus, elle touche la compassion, elle est en unité, en liaison avec la compassion du Père, et puis ça, il y a quelque chose qui se passe, c'est la multiplication, quoi. Et je crois que Dieu veut nous équiper de cette connaissance du Père qui fait qu'on ose demander, des choses impossibles, des multiplications incroyables, multiplication de finances déjà, multiplication d'ouvriers, multiplication de biens pour donner aux autres, enfin, des multiplications de toutes sortes de choses. Et il veut mettre en nous cette hardiesse parce qu'on connaît, le cœur du Père. Donc, il y a cette multiplication qui se passe parce que, à cause de la connexion de Jésus avec son Père, à cause de l'action de grâce, hein, rappelez-vous, il rend grâce avant qu'il y ait la multiplication. Ça nous parle de rendre grâce, ça nous parle de la louange, ça nous parle d'adoration, ça nous parle d'une relation de reconnaissance et de reconnaissance envers Dieu. Et donc, il y a cette multiplication, voyez. Et puis après, là où je voudrais attirer votre attention, c'est que juste après, il y a cette histoire de discussion des disciples. Ils repartent sur le bateau, vous savez. Et puis, oh là là, on a oublié les pains, on n'a pas de pain. Vous rendez compte, ils viennent d'avoir une multiplication et ils se font du souci parce qu'ils ont oublié les pains. Il faut le faire quand même. Hein. Mais nous, on est pareil. Hein. On vient d'avoir une grande, grande, grande bénédiction et le lendemain, oh là là, comment je vais boucler mon mois. On est terrible, hein, vraiment terrible. Donc, première chose, ils commencent à dire, oh là là, on a oublié le pain. Alors. Et puis, après, Dieu les met en garde. Et je crois que vraiment, Jésus les met en garde. Et je crois que vraiment, c'est un avertissement pour nous aussi. Il nous dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et dans un autre évangile, il parle du levain d'Hérode aussi. Il y a 3 sortes de levain. Pharisiens, sadducéens, Hérode. C'est quoi ces levains? Ça nous parle d'influence étrangère, d'influence mauvaise. Gardez-vous. Et juste après cette multiplication, chapitre 16, hein, verset 11, il parle de ça. Et je crois que c'est vraiment pour nous un avertissement. On est dans des temps d'élargissement, des temps où Dieu travaille notre cœur. Et attention, attention, attention au levain. Alors, le levain des pharisiens, ça nous parle du légalisme, de la propre justice, de l'esprit de jugement. Ça nous parle de tout ça. C'est l'inverse de la miséricorde. Rappelez-vous, hein, l'histoire du bon samaritain, les pharisiens, les lévites, tous ces gens-là, et le sacrificateur, ils passent tranquille devant les blessés, ils font rien du tout. Propre justice et une dureté de cœur, vous voyez. Ils appliquent la loi, mais avec une dureté de cœur. Ça, c'est le pharisaïsme, et vraiment, vraiment, le Seigneur veut, il faut nous garder de ça, quoi. Ça, c'est terrible, les pharisiens, et je pense que l'esprit pharisien, il est infiltré dans tous les milieux chrétiens. On est capable de devenir des pharisiens. C'est un piège, c'est un levain très pernicieux, parce qu'en plus, c'est d'autant plus pernicieux que ça se drape de très belles paroles, de très beaux enseignements, de très belles choses, mais il n'y a pas les entrailles de miséricorde qui vont avec, et c'est tout faux. On est complètement à côté de la plaque. On peut donner des très, très, très belles choses, avoir un extérieur formidable. S'il n'y a pas les entrailles de miséricorde, on est à côté de la plaque. Et il n'y a pas de puissance de vie. Et on est dans la mort. Donc, gardons-nous du levain des pharisiens. Après, il y a le levain des sadducéens. Les sadducéens, ils ne croyaient pas en la résurrection. Donc, ça nous parle de l'incrédulité, ça nous parle de rationalisme, ça nous parle d'humanisme. Bon, on est en plein dedans, hein, on sait ce que c'est. Hein. Donc, gardons-nous de ce levain d'incrédulité. Ça, c'est la crédulité aussi. Bah, Seigneur, tu es capable de te sauver tout le Florival? On commence à discuter, à raisonner, là-dedans ça tourne, et puis notre culture française, elle ne nous aide pas du tout pour ça. Donc ça, c'est le levain des sadducéens. Alors le levain d'Hérode, Bon, là, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est amour du monde, hein, les plaisirs du monde, la fascination du monde. Donc ça, on sait aussi ce que c'est, on y est confronté. Peut-être le matérialisme, vous voyez. Ça aussi, c'est des choses qui nous confrontent de beaucoup. Et puis, Hérode, c'était quand même un roi. Ça nous parle peut-être aussi d'esprit de pouvoir. Vous savez, cette mentalité de pouvoir, désir d'être reconnu, désir de puissance, désir d'avoir une responsabilité qui est reconnue, quoi. C'est très pernicieux aussi, l'esprit, le levain d'Hérode, vous voyez. Et quand on est dans ces temps d'élargissement, il faut vraiment qu'on veille sur nos cœurs, sur les cœurs les uns des autres. Gardons-nous de ces levains-là. N'oubliez pas, hein, avant que, l'armée de Josué envahisse, envahisse Canaan, il y avait Balaam. Et Balaam, il a fait chuter les Israéliens en leur envoyant des Madianites, donc des influences étrangères qui ont amené le peuple à l'idolâtrie. Donc il faut vraiment, vraiment nous garder de ça. Et c'est, je crois que ce n'est pas un hasard que juste après la multiplication des pains, eh bien, il y a cet avertissement de Jésus. Et puis, il faut se garder aussi de quelque chose qui ressemble à l'Esprit de Dieu, mais qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur un passage, c'est Jean, oui, c'est ça, Jean 12. Jean 12, il y avait des disciples, alors ces disciples, ils ne font que des bêtises, hein, les disciples... Les Samaritains, attends, on va prendre Jean 12, parce que je crois que c'est un passage aussi important. Jean 12. C'était où? Ah non, c'est pas celui-là. Non, excusez-moi, c'est pas celui-là. Enfin, si, le passage est bon, mais c'est autre chose. Ah oui, on peut garder Jean 12, 47, mais c'est aussi Luc 9, versets 51 à 56. Donc Jésus parcourt le territoire et puis ils arrivent à un village qui refuse de les recevoir. Vous connaissez ce passage ? Luc 9, versets 51 à 56. Donc Jésus envoie devant lui des messagers, se met en route, entrait dans un village de Samaritains, verset 52, hein, afin de faire préparer des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent: Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et les consumer? Ça paraît très très spirituel ça. Hein, on appelle le jugement de Dieu sur ce village de Samaritains qui a osé recevoir Jésus. Ça paraît très spirituel, ça a un aspect très spirituel. Le feu du ciel, le jugement. Et puis il se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Alors je vous pose une question, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les anime, c'est qui? C'est quel esprit qui les anime, hein? Et je voudrais aussi vous mettre en garde, je crois que Luc en a déjà parlé, il y a tout un courant prophétique qui dit jugement, 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 jugement sur les nations, jugement. Il ne parle que de jugement. Bien sûr qu'il y a des jugements, c'est sûr, on ne peut pas gommer ça. Mais s'il n'y a pas le complément, c'est-à-dire la grâce, la miséricorde, eh bien, on tombe dans ce piège-là. Dans ce piège dans lequel sont tombés Jacques et Jean. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus les a repris sévèrement. C'est rare qu'on parle de la sévérité de Jésus avec ses disciples. C'est assez rare. Hein. Mais là, il a été intraitable. Parce que c'est grave parce que Jacques et Jean, ils déformaient l'image du Père. Ça devenait le Père fouettard, vous voyez. Et dans notre culture française, depuis des décennies, des générations et des générations, on reproduit l'image d'un Dieu lointain, inaccessible, avec des prêtres où il faut des prêtres comme intermédiaires. Père fouettard, Père fouettard, Père fouettard. Et on met ça dans notre inconscient collectif, on a ça. Mais c'est une idole, c'est une fausse image de Dieu, c'est l'image taillée dont parlait Luc la semaine dernière, c'est une image taillée ça. Et les Français en ont tellement eu assez de cette idole qu'ils se sont créés une mère de Dieu parce qu'au moins elle était plus accessible, plus gentille, plus tout quoi. C'est faux tout ça, c'est archi faux. Et donc le Dieu de jugement, le Dieu qui vient avec son grand bâton, eh ben, Dieu dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Et donc dans Jean 12, 47, il dit, je ne suis pas venu pour juger mais pour sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Et puis, l'image du Père, elle est révélée aussi dans Matthieu 5. Matthieu 5, ça nous met les idées en place aussi, parce que Matthieu 5, qui est le Père? Et puis Dieu nous met au défi, il nous dit, soyez parfaits comme le Père. Matthieu 5, ça commence, vous savez, au verset, c'est tout le chapitre 5. Aimez, tu aimeras ton prochain, je vous dis... Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est la grandeur du cœur de Dieu. C'est pas un Dieu qui vous fouette dès que vous avez fait une bêtise. C'est un Dieu très très grand, quoi, un Dieu de miséricorde. Et on en a fait un Dieu père fouettard. Et ça, c'est très très grave, parce qu'on a déformé l'image de Dieu. Et on n'y accède pas nous-mêmes, et on empêche les autres d'y accéder quand on a cette image-là. Et Dieu veut renverser toutes ces images déformées, ces images impures qu'on a du Père, parce que c'est archi faux, quoi. Voilà. Et vraiment, Seigneur, tu renouvelles notre pensée de toi. Et vous savez, je ne sais pas quelle image vous avez des kamikazes palestiniens, de ceux qui se mettent des ceintures d'explosifs. Eh bien, je peux vous dire que le Père a des entrailles de miséricorde pour ces gens-là. Et bon, moi, je ne les avais pas non plus. Hein, c'était, oh là là, jugement, etc., etc. Et puis, j'ai entendu un message, pour dire le nom, c'est Gwen Cho. C'est un message qui m'a marqué à vie. Elle parlait de Cho. Elle a exprimé le cœur de Dieu pour les islamistes, pour les terroristes, pour ces gens qui se faisaient exploser tout jeunes. Il y avait une compassion de Dieu. Et Gwen Cho est animée d'un tel amour qu'elle était prête à braver la mort, à prendre des risques inouïs pour aller dans les territoires palestiniens et manifester l'amour de Dieu à des islamistes extrémistes. Elle avait un tel amour, elle était prête à tout, quoi, pour foncer. C'est incroyable. J'ai dit, Seigneur, on veut ça. On veut cet amour qui pousse à prendre des risques incroyables. Vous vous rendez compte, une vieille dame comme ça, canadienne, donc nord-américaine, prête à prendre des taxis et puis aller dans les territoires, imaginez Gaza, quoi. Quel missionnaire a envie d'aller à Gaza, franchement. Et elle avait ce cœur-là et elle nous a, non seulement ça, mais elle nous a communiqué une pensée complètement différente sur ces gens-là, quoi. Elle nous a retourné comme des crêpes, quoi. Et puis pensons au Dieu de Ninive. Ninive, c'était, je sais pas, c'était pire que Bagdad et toutes ces capitales du Moyen-Orient réunies. C'était terrible, Ninive. C'était des gens d'une cruauté incroyable. Ils avaient des amoncellements de crânes de leurs ennemis, là. Enfin, c'était une horreur, quoi, hein, à Ninive. Et puis Dieu, il voulait sauver Ninive. Vous vous rendez compte? Je crois que là, on a le cœur de Dieu pour tous les extrémistes, islamistes et compagnie du monde entier, quoi. Ça, c'est sauver Ninive. Bon, Jonas, vous voyez ce que ça a donné, hein. Mais Jonas, jusqu'au bout, il n'a rien compris. Hein. Jusqu'au bout, il n'a rien compris. Mais Dieu a manifesté son cœur. Il a dit, la manière dont Dieu voyait Ninive, c'était de dire, ils ne savent pas reconnaître leur droite de la gauche. Ils ne savent pas reconnaître le bien du mal. Et puis, il voulait les sauver. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Et qu'on ne dise pas, il y a deux dieux nouveaux, le Dieu de l'Ancienne Alliance. Non, c'est le même Dieu partout. Et c'est un Dieu de miséricorde et de compassion. Et il veut nous transmettre cette miséricorde et cette compassion. Alors, je crois qu'il veut vraiment nous impartir ce qu'il est lui. Il veut nous le transmettre à nous. Et on sait qu'il y a une gloire qui doit venir sur... on sait qu'il y a une gloire. On a dit qu'on était un peuple qui allait supporter la gloire de Dieu. Mais on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, cette gloire. Et j'aurais voulu lire un passage qui va nous montrer peut-être d'une manière toute simple, quotidienne presque, ce que c'est que la gloire. C'est un livre qui s'appelle donc « De la poussière à la gloire » de John Lewis. Et il y a comme un... Ça se passe dans les années 1980. Et je crois que c'est comme un... Comment dire? Je crois qu'à travers ce passage, on reçoit dans nos cœurs ce que Dieu... Comment Dieu veut nous utiliser pour manifester sa gloire, voyez? Alors, ça se passe aussi à Jérusalem. Et donc, c'est June qui raconte, hein. Et elle était dans un bus, elle a pris un autobus arabe en ville. Et je m'asseyais à côté d'une vieille musulmane. Mes amis, assis devant moi, parlaient joyeusement, elle était à une convention, hein, et se tournant parfois pour m'adresser la parole. Quoi qu'ils aient eu l'impression que je leur donnais toute mon attention, intérieurement, le Saint-Esprit m'attirait vers cette femme musulmane. En premier lieu, je remarquais ses pauvres vieilles mains jointes sur ses genoux, et cette image me bouleversait. Je n'avais jusque-là jamais vu des mains aussi usées par le travail. Et je pensais à tout ce labeur qu'elles avaient dû accomplir pendant cette dernière décennie. Quel genre de travail avait pu laisser de telles traces? En tout cas, un travail bien trop rude et fatigant pour un corps aussi délicat. Ça, je le savais sans qu'on me le dise. Alors que j'étais assise dans ce bus arabe, que nous descendions la montagne en cahotant, Dieu m'a confrontée puissamment à cette vie humaine à mes côtés. Je savais peu de la vie des femmes musulmanes du peuple, mais j'en savais assez pour être consciente des difficultés extrêmes et de l'oppression inimaginable remplissant leur existence. Mais ces mains-là racontaient mieux que quiconque l'histoire de cette vie et toute sa souffrance. Elles racontaient avec une intensité dépassant toute parole. Combien j'aurais voulu que cette âme connaisse notre Christ, Son fardeau avait été trop lourd pour elle, dans son esprit comme dans sa chair. J'aurais tant voulu que notre merveilleux Seigneur touche sa vie comme il avait touché la mienne, qu'il porte ses fardeaux comme il porte les miens. Mon désir ardent me remplissait d'une telle compassion que celle-ci envahit mon cœur, ma gorge, mon visage. Mais mes yeux restaient fixés au sol et je luttais pour cacher ce que je ressentais, l'amour profond de Dieu pour cette personne âgée. Il se passa alors quelque chose dont je ne me souviens pas, mais qui m'a fait lever les yeux. Et c'est à ce moment-là que nos yeux se rencontrèrent. Cette rencontre de nos yeux ressemblait à un choc électrique que je ne peux pas expliquer. Le regard de la vieille femme me transperçait le visage. Qui voyait-elle? Je ne sais pas. Elle commença à trembler. Tout à coup, elle se mit à sangloter. Elle me prit les mains dans les siennes et les couvrit de baisers. De façon surnaturelle, Jésus travaillait son cœur. Son amour pour cette âme se manifestait au travers de mon être, de mon cœur, là où il réside, et se révélait à elle de façon tangible. Elle était bouleversée. Savait-elle qui lui tendait la main? Elle doit savoir que c'est toi, Seigneur, je prie intérieurement. Révèle-toi, de façon à ce qu'elle sache que tu es vivant, que tu l'aimes. Et je pleurais aussi. Seigneur, je supplie à voix haute qu'elle ne parlait pas l'anglais. Sauve-la, attire-la à toi, fais quelque chose dans sa vie, fais-le aujourd'hui, Seigneur. Que devons-nous penser de telles étranges rencontres, si soudaines, si puissantes, si manifestement un acte de Dieu? D'une façon que je ne peux absolument pas expliquer, Dieu s'est révélé à cette vieille femme arabe. Que s'est-il passé? Je l'ignore. Mais je sais que c'était un acte souverain de Dieu. Il lui donna quelque chose de lui, comme une caresse, sur une longue et triste vie. Des vagues de l'océan de son amour déferlèrent sur elle par la puissance de son esprit, du Saint-Esprit faisant fondre son cœur. Dans tout cela, je n'étais qu'un instrument. Tout venait de Dieu et rien de moi. Je me demande si une telle rencontre a porté du fruit durable. Je n'ai pas la réponse, mais je sais une chose, que celui qui l'a touché si profondément dans ce bus ne se reposera pas tant qu'on son salut n'est pas accompli. Et je crois fermement que la gloire de Dieu se manifestera ainsi de plus en plus. Et Seigneur, on croit que nous tous dans cette église ici, tu veux mettre en nous des entrailles de miséricorde et de compassion. Tu veux nous utiliser de cette façon-là, Seigneur, pour être manifesté qui tu es à tous ces gens autour de nous qui sont dans une telle détresse, un tel enfer. Tu veux nous utiliser, Seigneur, et on a si souvent un cœur tellement dur, tellement indifférent. Alors on crie grâce pour ce cœur dur et indifférent, pour notre cœur à nous, Seigneur, pour l'incrédulité, pour les protections qu'on se met tout autour, parce qu'on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de souffrir avec, et on se cache et on se ferme, alors que tu veux prendre nos entrailles et mettre les tiennes, et nous saisir avec les personnes que tu mets sur notre chemin, nous saisir et qu'on déverse ton amour qui peut changer les vies. Il y a une telle puissance dans ta miséricorde, Seigneur, une telle puissance incroyable. Et pardonne-nous de la retenir, cette puissance. Pardonne-nous de la cacher, de cacher la lumière. Seigneur, en tant qu'Église, on vient vers toi et on dit, saisis-nous. La semaine prochaine, il y a des gens qui vont venir. Ils ont besoin de connaître ta miséricorde. Et on veut les trois générations réunies manifester la puissance de ta miséricorde. Parce que rien ne peut résister à la triple génération unie d'un même cœur qui a le cœur du Père. Et on sait que la nation de France va découvrir le Père. Elle a une fausse image du Père. On lui a menti sur le Père, mais elle va le connaître à travers une église qui a la révélation du Père. Et elle va courir dans les bras du Père. Et c'est nous qui devons accueillir. Seigneur, élargis, comme tu élargis cette salle, élargis nos cœurs, élargis nos entrailles. On veut être prêts, on veut exprimer qui tu es à tous ceux qui vont venir, tellement chargés. Purifie-nous de tous les levains, Seigneur. Tu connais les levains qui sont dans nos vies. Que ce soit celui des pharisiens, des sadducéens, d'Hérode, tu connais tous ces levains. Et purifie, Seigneur, purifie, enlève, ôte les mauvaises herbes. Qu'on soit disponible, que ces flots de grâce que tu peux faire déferler, ils puissent passer au travers de nous, Seigneur. Qu'on croit que la multiplication est possible, même si on n'a presque rien, on a deux pains, trois poissons, on n'a rien, mais on croit à la multiplication. Parce que tu es le Père de miséricorde, parce que tes entrailles, c'est la miséricorde. Seigneur, révèle-nous encore plus que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu de bonté, un Dieu qui vient pas pour juger mais pour sauver,
Un Dieu qui veut sauver le monde. Seigneur, s'il te plaît, on crie grâce pour notre dureté de cœur. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Et on crie grâce. Enlève tout ce qui est rigide au-dedans de nous. Tu sais combien si souvent on se bloque, il y a quelque chose de dur en nous, dans nos entrailles qui est là, quelque chose d'implacable, quelque chose d'indifférent et de glacé. On le reconnaît, Seigneur. Et enlève toute cette glace, toute cette dureté. Parce qu'on ne voulait pas souffrir, alors on s'est mis plein de dureté en nous. Fais sauter tout ça, Seigneur. Fais sauter. On te donne le droit, on te donne la permission de faire sauter toutes ces duretés de nos cœurs, Seigneur. Cette dureté peut être accumulée par les souffrances de nos épreuves, de notre vie. Et puis on s'est fait des tas de protections et c'est devenu tellement dur. Alors fais sauter toutes ces duretés, Seigneur. On veut avoir des entrailles de miséricorde parce que c'est toi. L'ivoire poli, on le veut. Les saphirs avec l'ivoire poli, on les veut. On veut ça dans nos vies. On veut pouvoir saisir des gens dans nos bras et être un canal de ta guérison, de ta compassion. Tu veux guérir des vies à travers nous. Tu veux mettre une caresse de toi sur des vies tellement tristes. Seigneur, saisis-nous de compassion. Ouvre nos yeux sur la détresse de ce monde. Enlève le jugement qui est que la miséricorde, qui triomphe du jugement. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Qu'on puisse oser dire grâce, demander grâce. Tu attends que ça, qu'il y ait des intercesseurs qui se lèvent et qui disent grâce. Là où il n'y a plus de grâce possible, toi, tu veux faire grâce. Amen.
J'avais parlé il y a deux semaines, j'avais dit que le Seigneur en avait assez de se faire voler. Je crois que c'est toujours ça. Dieu en a assez que le voleur vole des âmes, nous vole nous-mêmes. Il veut ce qui est à lui, il réclame ce qui lui appartient. Son cœur de père réclame ses enfants. Rendez-moi mes fils, rendez-moi mes filles. Est-ce que vous avez déjà vu un papa qui prenait son enfant sur ses bras? Vous avez déjà vu le papa qui câline son fils? Et vous savez ce que le Seigneur dit de ça quand il le voit? Il nous dit, méchant comme tu l'es, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Il nous traite de méchants. Nous, des pères qui savons aimer les enfants à peu près, il nous dit qu'on est encore méchants par rapport à lui, à sa façon d'aimer ses enfants. La façon dont il t'aime, c'est 1000 fois au-delà de ce qu'un père peut aimer ses enfants. Et son cœur de père saigne quand on s'écarte de lui. Son cœur de père saigne quand des âmes ne sont pas dans ses bras, quand il ne peut pas leur montrer l'amour. Et je pense que son cœur saigne parce que nous-mêmes, on ne sait pas encore manifester son amour de père. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'il veut toucher nos entrailles, afin que son cœur de père puisse commencer à être libéré autour de nous, en nous et dans les nations. Le Seigneur a toujours les deux horizons à la fois, dans ta vie et dans les nations. Amen. Est-ce qu'il y avait une annonce particulière? Je crois qu'il y avait des manalas au dimanche prochain, Anne. Il n'y a pas un truc comme ça? Il n'y avait pas des bredalas, tu m'as dit. C'est ça, il y a une vente de bredalas dimanche prochain.